en dire et des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est la dernière des trois émissions spéciales que VMDN consacre à la rentrée littéraire du Mali. Le rideau tombera demain sur cette 11e édition 2019 avec la remise des prix. Le coup d'envoi a été donné mardi soir au Musée national du Mali en présence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et à l'issue de la cérémonie, celui-ci a accepté de répondre à quelques questions. Je lui ai d'abord demandé pourquoi il avait tenu à être là en personne.
Parce que c'était mon devoir et aussi un réel bonheur. Une rentrée littéraire au Mali avec tous ces invités prestigieux et tous ces frères qui nous ont fait l'honneur de se porter jusqu'à nous. Et la commissaire générale de mise à mission par le président Macron pour le livre dans le monde francophone. Et ça a été un prix pur bonheur pour moi.
Vous avez été interpellé à plusieurs reprises par les professionnels du secteur du livre, par tous ceux qui sont mobilisés depuis des années au Mali et ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre pour donner à la politique du livre un nouveau dynamisme au Mali?
Ils ont raison. Ils ont raison, mais ce n'est pas une problématique très simple. La volonté est là. Mais il faut qu'on prenne au niveau des fondamentaux. Dès l'école primaire, dès l'école fondamentale, qu'on apprenne aux jeunes gens, à nos enfants à lire, à aimer le livre, à aimer lire. Et que nous incitions à cela et que nous fassions en sorte également aussi que l'édition soit soutenue pour que le coût d'accès au livre soit le plus réduit possible, à la portée des gens. Donc il y a un effort vigoureux à faire, je l'ai bien compris, et nous le ferons Inch'Allah.
En faveur des éditeurs, en faveur des bibliothèques, en faveur des auteurs?
Toute la chaîne doit être revue aux fins d'assouplissement, aux fins que l'accès au livre soit le plus facilité possible. Il le faut. Nous sommes un pays de vieil humanisme, un pays de culture. On ne peut pas, dans le pays d'Ampateba, faire le constat que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas notre honneur. Et pour cela, tout cela dont nous réclamons avec fierté, Ahmed Baba, l'homme de Marrakech, l'homme de Tombouctou, Sankore, Tombouctou, qui furent des points de lumière dans le monde médiéval, nous ne pouvons pas nous satisfaire aujourd'hui de l'état du livre dans notre pays. Il faut que nous revoyions cette copie-là et nous le ferons.
Le thème de cette année, c'est la rencontre. Quelle est, vous, votre plus belle rencontre avec un livre?
Ça a été cette trilogie qui m'a été offerte. Ces livres sont des livres fondamentaux pour moi qui attestent l'antériorité du fait malien dans l'histoire mondiale. Chesse, la tribu de Chesse, Lemli à Princesse des Garous. Ce sont des livres vraiment qui m'ont marqué.
Vous avez parlé, monsieur le Président, il y a un instant, de votre utilisation très régulière du dictionnaire.
Oui.
Des dictionnaires même, d'ailleurs.
Oui.
Pour quelles raisons vous en avez autant usage?
Là où c'est Robert, parce que je ne suis jamais certain que tel orthographe est correct. Donc quand je doute un instant, je regarde, je consulte le dictionnaire avec humilité.
Monsieur le Président, est-ce que le livre et la culture en général peuvent être une solution dans la crise que traverse le Mali?
Tout ce qui ouvre l'esprit, tout ce qui permet le lien entre les hommes est utile à la compréhension entre les hommes, est utile pour notre politique nationale de réconciliation des cœurs et des esprits. Et je crois que cela est très clair. Même s'il y en a une corporelle sano, je le dis encore une fois, un esprit sain dans un corps sain, le livre peut aider. La culture aide. Et moi, j'y crois.
VMDN est au Mali, à Bamako.
Le rôle de l'écriture, du livre, des écrivains en situation de crise politique, on va en parler justement avec nos trois invités réunis à l'Institut français du Mali. Thierno Monenembo, bonjour. Écrivain guinéen, Grand Prix de la Francophonie 2017, Prix Renaudot 2008 pour Le Roi de Kael. On vous a dans cette émission pour Le Terroriste Noir, hein, le récit du parcours d'Adiba, ce Peul de Guinée devenu héros de la résistance française et fusillé par les nazis en 1943. En face de vous, Samy Tchak, bonjour. Merci également d'être là. Écrivain franco-togolais, vous avez reçu en 2004 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour l'ensemble de votre œuvre. Vous avez écrit 4 essais sur la sexualité féminine en Afrique, sur la prostitution à Cuba, sur le sida en Afrique et un livre plus introspectif, La couleur de l'écrivain. Et puis 6 romans, hein, parmi lesquels Place des Fêtes, Fille de Mexico et le dernier, Ainsi parlait mon père. Et puis également avec nous l'anthropologue André Bourgeot. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être là, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du nomadisme et du développement notamment. Vous avez travaillé sur l'Algérie, le Niger, le Tchad, surtout le Mali, hein, qui reste toujours dans l'actualité, pas seulement pour son actualité littéraire. Alors la rentrée littéraire a justement choisi, André Bourgeot, le thème de la rencontre et pose d'ailleurs la question, les crises au Mali, est-ce l'histoire ou les histoires d'une rencontre manquée? C'est là-dessus que vous avez été invité à vous exprimer ce jeudi, ici même à l'Institut français du Mali. Alors, quelle est votre réponse? Rencontre manquée, c'est l'explication de ce qui se passe aujourd'hui au Mali?
Rencontre manquée, ou même plus grave, absence de rencontre, puisque la situation qui prévaut actuellement au Mali et d'une manière plus générale dans l'espace saharo-sahélien, c'est toute une histoire de mésentente, d'absence de rencontre, porteuse de conflits. Alors, c'est des conflits quand même qui durent depuis déjà plusieurs années. Même si ces conflits ont été assortis de signatures d'accords de paix dits accords d'Alger, on voit bien que ces accords d'Alger, 3 ans après, ne sont toujours pas appliqués. Donc c'est effectivement des rencontres manquées. Ça ne veut pas dire que ces rencontres sont définitivement manquées, ça veut dire tout simplement qu'elles ont beaucoup de difficultés à se retrouver, à se re-rencontrer sur des bases pacifiques.
Ça veut dire que le peuple malien aujourd'hui est un peuple éclaté?
Ah, en tout cas, je dirais, on peut dire que le peuple malien est un peuple éclaté, mais s'il est éclaté, ça veut dire que son territoire national est éclaté. C'est-à-dire que ça repose le problème de l'intégrité territoriale. De mon point de vue, je pense qu'actuellement, cette intégrité territoriale est l'objet de mise en place de plusieurs territorialités contrôlées par des groupes armés, qu'ils soient laïcs ou bien religieux, qui font en sorte que c'est la mise en place de nombreuses territorialités contrôlées par des pouvoirs autoproclamés. Donc c'est aussi le pouvoir central qui est éclaté, c'est pas simplement que le territoire national.
Alors il y a dans l'actualité ces affrontements récurrents dans le centre du pays entre les Dogons et les Peuls. Bon, on a compris que c'était un petit peu plus complexe que la formule simplifiée que je viens d'utiliser, André Bourgeot. Est-ce qu'on peut dire que le poison de la division s'est réellement instillé au sein du peuple malien?
Vous faites référence au fait qu'effectivement c'est un peu simplificateur, voire réducteur, que d'opposer les Dogons aux Peuls. C'est beaucoup plus complexe que ça, et je considère que mon rôle d'anthropologue, c'est de rétablir cette complexité qui est très difficile à exprimer, même pour un anthropologue. Alors, Dogon aux Peuls, vous faites pas référence aux Donzo. Or, c'est surtout le problème des relations entre Donzo et Peuls.
Mais alors, expliquez-nous la différence.
Les Donzo, la première chose à dire, c'est que c'est pas une ethnie. Ce sont essentiellement des chasseurs. Donc vous avez chez les Donzo aussi des Peuls. C'est la raison pour laquelle opposer d'une manière un petit peu trop abrupte entre Dogon et Peuls, ce n'est pas pertinent pour expliquer la situation qui prévaut actuellement dans le centre du Mali, d'une part. Et d'autre part, il ne faut pas non plus minimiser toute l'importance de règlement de compte, de la criminalité organisée, qui fait en sorte que ça crée des perturbations généralisées et que l'on a tendance à opposer Dogon à Peul. Mais cette opposition, de mon point de vue, n'a pas de validité opératoire pour expliquer ce qui se passe dans le Mali central.
Tierno Monenembo, quel regard est-ce que vous portez justement sur cette situation là précise? Vous n'êtes pas un spécialiste du Mali, hein, je tiens à préciser, mais vous êtes effectivement très intéressé à la situation des Peuls. En général, quel est le regard qu'en tant qu'homme et en tant qu'écrivain vous portez sur ce qui se passe là-bas?
Un regard de colère, parce que ce qui se passe au Mali est général en Afrique. On peut le retrouver en Côte d'Ivoire et ailleurs. Nous sommes des sociétés qui fonctionnent mal aujourd'hui parce que nous manquons de plus en plus de l'essentiel, c'est-à-dire des facteurs de régulation indispensables au fonctionnement d'une société. L'État n'est plus là, alors très peu là. Et quand il est là, il manque de moyens ou de compétences. Et les contradictions sociales sont inhérentes à toutes les sociétés du monde. Mais ça se règle. Dans les temps anciens, il y avait des gens capables de régler ce genre de problème. En moins de 2 mois, on aurait déjà réglé ça. Et les problèmes sont normaux. Les problèmes entre ethnies, entre races, entre catégories sociales, c'est des problèmes parfaitement normaux. Mais quand on arrive là, ce n'est plus la faute ni de Dogon ni de Peul, si jamais c'était un conflit Peul-Dogon, j'en suis pas du tout sûr. C'est l'État malien qui doit être indexé.
Donc c'est un problème politique, c'est un problème de structuration de la société.
Évidemment, il est politique. Très souvent, ce sont des manipulations politiques. Parce que très souvent, sous le couvert de l'ethnicisme, ce sont des manipulations politiques que l'on trouve en Afrique.
Vous m'en direz des nouvelles est au Mali, à Bamako.
Samy Tchak, est-ce que la littérature peut être un ferment d'entente politique?
Oui, ben, d'emblée, je peux dire que bon, la littérature ne peut pas grand-chose. On a toujours tendance quand même à lui attribuer des vertus qu'elle n'a jamais eues nulle part. Hein. On peut quand même se dire que bon, les crises politiques, quand elles se passent, la littérature peut en tirer de bons éléments. On peut faire de grands romans à ce moment-là, mais jamais elle n'a joué sur quoi que ce soit. Et ça, je rappelle quand même que ceux qui en doutent doivent se rappeler que l'Allemagne n'a jamais connu autant de grands écrivains qu'au moment où elle bascule. Donc la littérature ne peut rien.
Donc ce n'est pas un garde-fou, hein, d'après ce
que vous dites. Non, la littérature n'a jamais été un garde-fou nulle part. De toutes les façons, une bonne littérature n'est pas à la traîne de la réalité. Elle arrive quand tout s'est déjà passé.
Mais quand vous entendez le président Ibrahim Boubacar Keïta dire que la culture en général et le livre en particulier peuvent jouer un rôle dans le processus de réconciliation, vous êtes d'accord avec lui ?
Non, pas du tout. C'est parce qu'il a une vision relativement caricaturale et un peu convenue du livre. Les livres aussi ont servi à enflammer des nations. Les gens oublient que c'est parce que certains ont lu Mein Kampf, par exemple, qu'ils ont adhéré à la vision d'Hitler. Attribuer au livre de telles vertus, c'est peut-être reprendre un discours trop convenu.
Alors, je vais peut-être prendre à mon tour ce discours convenu, juste pour voir effectivement vos arguments, Samitcha, qu'on peut dire aussi que la littérature, c'est aussi une manière de libérer les imaginaires, une manière d'enrichir sa culture, une manière de développer son esprit critique aussi, et donc, peut-être, d'ouvrir un petit peu plus ses propres horizons.
Je crois franchement que là, c'est toujours une vision très idéalisée. La littérature ne libère pas les imaginaires. Elle peut parfois contribuer d'ailleurs à cristalliser des imaginaires nationaux. Il ne faut quand même pas oublier le rôle des livres dans la cristallisation des relations conflictuelles entre les peuples ou les races. Beaucoup de choses quand même qui sont encore actuelles de nos jours, que ce soit entre l'Occident et l'Afrique ou à l'intérieur de l'Afrique, sont quand même venues des idées qui se sont cristallisées dans les livres. Je prends l'exemple du racialisme, du racisme. Ce sont des livres qui ont cristallisé cette idée ou ces idées dont les effets sont encore visibles de nos jours. Mais pour faire peut-être une parenthèse sur le conflit ou les conflits au Mali, je pense qu'on peut accuser le politique, mais les conflits ont toujours été, pour les sociétés, de grands tournants pour leur réorganisation. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, une grande société entame une phase de conflit protéiforme qui vont finir par engendrer une harmonie qui est, elle aussi, provisoire. C'est normal dans le déroulement de toutes les civilisations. Le Mali a connu des conflits, même avant la colonisation, au temps de la colonisation, et en connaîtra toujours, ça c'est
sûr. Partagez ce point de vue, Tiananmen Nembo, on en demande peut-être trop, on en attend peut-être trop du livre et du pouvoir, entre guillemets, de la plume et des écrivains.
Mais il n'y a pas un livre, il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs types de livres déjà. Il y a des essais. Il y a des livres très bien intentionnés, ou je veux dire mal intentionnés dans le sens où l'entendre, je pense, celui qui a dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais il y a plusieurs livres, il y a des livres sociologiques, il y a des livres idéologiques, et puis il y a des romans. Moi, je me situe par rapport au roman.
Alors justement, le roman, la poésie aussi, est-ce qu'on peut dire que, eh bien, elle ouvre l'esprit? J'insiste, mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue à vous.
Je pense que oui, puisque ce qui est intéressant dans le roman, c'est qu'on ne cherche pas des solutions, on cherche à poser les bonnes questions et à les poser de façon profonde. C'est ça qui est intéressant. Et les livres idéologiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont des réponses avant même que la question ne soit posée. Dans le roman, c'est la question qui est recherchée d'abord et avant tout. On cherche à s'interroger. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Est-ce qu'il existe un destin humain ? Est-ce qu'il existe une humanité ? C'est des questions fondamentales auxquelles le roman est obligé de réfléchir un minimum, sans avoir la réponse, bien évidemment.
André Bourgeois en parlait hier dans cette émission de l'importance de l'oralité en Afrique, et singulièrement, effectivement, dans l'Afrique subsaharienne. Est-ce que le roman, est-ce que l'écrit a aussi, justement, un pouvoir susceptible d'influencer suffisamment les esprits en faveur de l'ouverture ?
Est-ce que le livre, quelles que soient ses formes et son contenu, ça veut dire roman, poésie, épopée, etc., peut contribuer à une prise de conscience politique? C'est un peu ça, votre sens de question.
Il pose les bonnes questions.
Voilà. Moi, je vous répondrai, est-ce que la question est pertinente? Est-ce qu'elle a une validité opératoire dans des pays tels que le Mali, où 28% de la population est lettrée? 28%, c'est quand même très significatif. Donc, quel peut être le rôle du livre qui est, je crois qu'il faut le dire, quand même circonscrit à une population urbaine, quid des populations rurales qui sont démographiquement largement majoritaires. Donc on retombe sur le problème de l'oralité. Bon, en tant qu'anthropologue, moi je travaille beaucoup bien sûr sur les traditions orales, mais les traditions orales ont encore, par-delà toutes les transformations qu'il y a actuellement dans tous ces pays-là de l'espace sahéro-sahélien, un rôle extrêmement important. C'est aussi à travers les traditions orales que se transmettent des savoirs historiques, que se transmettre aussi des rituels, donc des comportements sociaux qui sont issus justement de cette tradition orale. Or, le livre ne pose pas ce type de questions, donc il s'adresse, tel que c'est conçu actuellement, à un certain public, à un auditoire qui est déjà, prédéterminé la réceptivité du livre. Donc effectivement, il y a tout un travail à faire, mais ça c'est le travail de l'éducation nationale. Si on prend l'exemple du Mali actuellement, c'est plusieurs centaines d'écoles qui ne fonctionne pas depuis déjà plusieurs années. Donc comment réintroduire un rapport à la culture, cette fois-ci, à travers l'oralité?
Donc ça veut dire que vous écrivez, vous, écrivain d'Afrique, essentiellement pour un public d'élite, Samy Tchak, et peut-être même plus pour le public francophone à l'extérieur de l'ère africaine, non?
Pour moi, je pense quand même que on ne peut pas avoir peur de le dire. La littérature, si on la fait avec une certaine prétention, est déjà élitiste. Pas seulement ici, un peu partout. Je vais dire, il y a des livres pour tout le monde, mais la grande littérature n'est pas à la portée de tout le monde. Je ne crois pas qu'en France, tout le monde se mettrait à lire Musil, L'homme sans qualité. La grande littérature est élitiste. Là, la question ne se pose pas seulement pour le continent africain. Quant à la question de l'oralité, elle aussi a une pertinence plutôt apparente, hein. Elle n'est pas non plus un handicap pour le rôle du livre. Il est limité dans toutes les sociétés. C'est ce que j'ai dit. Le livre s'adresse quand même à une partie de la population, assez souvent à une partie qu'on peut appeler une minorité à psychologie dominante. Parce que ce n'est pas tellement le grand nombre qui fait une société. Ce sont les gens, peut-être une poignée, dont la psychologie devient dominante. En France, quand on a eu quand même des auteurs comme Brasillach, ce qu'ils écrivaient, leur idéologie s'adressait à une élite. Cette élite suffit pour qu'une société change. La question qui se pose ici, mais est-ce qu'on a vraiment besoin du livre, de l'écrivain, de son roman au niveau des élites qui changent la société ou pourraient la changer?
Là, c'est votre réponse?
Ma réponse est que nous avons quand même tendance à circonscrire des sociétés dans une sorte de cocon. Le Mali, ce n'est pas seulement le Mali. On ne peut quand même pas penser le Mali sans prendre en compte un certain contexte international mondial et puis des relations de dépendance. Le Mali, c'est quoi? C'est quand même un pays qui, assiégé par des groupes armés, fait appel à la France. On n'est quand même pas en face d'un pays qui a les moyens même de ce qu'on appelle son autonomie. C'est un pays dépendant donc dont les effets quand même à l'intérieur ont peut-être des causes extérieures, multiples, qui est aussi à l'origine de tant de manipulations pour tant d'intérêts divergents. Donc le Mali, ce n'est pas un pays, pour moi, autonome. Il est peut-être indépendant sur le papier, oui. Mais s'il avait été un pays autonome, il ne ferait pas appel à la France pour tenter de se libérer. On est en face d'un pays dominé.
Dunya kanjata chara, Afriki kul manyoga, Mali borega fo mandani dange.
Manyoga ndabali bankoye, manyoga kabakoye, gleki minti tabi, ye gleki ninduma. Allah fo koronso muguye, mali tetalala.
Mali bakera mulu mali bego yambe kasila hamina jorola bisikera boye dumu do flimgura ningera kaba boye abana tanna matudo amege jugusa boye
mali tunye jamana mi jamana dumamba.
Vous m'en direz des nouvelles est au Mali à Bamako.
Maliko, les voix unies pour le Mali, c'était en 2013 et nous parlons de politique et de littérature aujourd'hui dans Vous m'en direz des nouvelles sur RFI avec nos invités Sami Tchak, Tierno Modenembo et André Bourgeois. Alors je le disais, André Bourgeois, nous sommes à l'Institut français, alors on va faire une seconde référence à un mot que les Français utilisent dans une signification bien particulière, la notion d'intellectuel. Elle est née en France, hein, au moment de l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle. Voici la définition qu'en donnent deux spécialistes, les historiens Pascal Horry et Jean-François Sirinelli. Un homme du culturel, créateur ou médiateur, mis en situation d'homme du politique, producteur ou consommateur d'idéologie. Est-ce que les écrivains africains et sahéliens en particulier que vous connaissez correspondent peu ou prou à ce modèle ?
Question facile, réponse un peu délicate. Je crois quand même que c'est une définition de l'intellectuel qui écarte la pratique sociale de l'intellectuel. Alors c'est quand même dominant. Enfin, moi j'appartiens à une génération où on ne dissociait pas la pratique sociale de la fonction d'intellectuel. C'est ça le problème actuellement. Donc implicitement vous posez le problème de est-ce que l'intellectuel actuel assure encore ses fonctions. Exactement. Beaucoup plus générales et beaucoup plus globales. J'aurais tendance à dire que malheureusement non, que ce soit pour les intellectuels africains ou européens, il y a un déclin de l'implication de l'intellectuel dans ses réalités sociales, politiques et économiques.
Mais pour rester sur le territoire africain, les poètes de la négritude étaient des intellectuels au sens plein du terme. Ils se sont battus des années et des années pour la reconnaissance de ce qu'ils appelaient la négritude, pour l'indépendance aussi, très souvent dans le processus de décolonisation. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est très très loin de ce type de système.
Absolument. Je me référais un petit peu à cette situation-là, en disant que j'appartenais à cette génération de l'indépendance, ce qui a fait en sorte que les intellectuels se sont impliqués dans les réalités politiques et économiques de leur pays, et qui ont contribué fortement à créer les conditions de l'indépendance. Il fut un temps aussi à cette époque-là où les présidents de la République étaient des présidents militants. Je fais référence simplement au président Modibo Keïta qui était un président militant. Où y a-t-il actuellement en Afrique des présidents militants ? Quand ils sont militants, c'est pas au service de leur pays, c'est au service à d'autres intérêts que les intérêts du pays. Donc je peux reprendre ce que je disais. Il y a un déclin sensible de l'implication de l'intellectuel en tant que citoyens, nous sommes des citoyens, donc il est normal que l'on s'inscrive dans les réalités des pays qu'on étudie ou des sociétés qu'on étudie. On n'est pas complètement désincarné, on a des positions politiques et idéologiques qui nous conduisent à faire des choix dans les objets de recherche, etc. Actuellement, c'est un peu fini, mais c'est un peu les conséquences aussi de la pensée unique. On n'en parle plus beaucoup, mais il fut un temps où on en parlait beaucoup et beaucoup en tout cas d'intellectuels au sens large du terme s'inscrivent dans la pensée unique parce que les intérêts sont là. C'est-à-dire qu'il y a des formes d'autocensure qui font en sorte qu'on n'aborde pas les problèmes de fond, d'une part. D'autre part aussi, on est confronté à des problèmes de médias. Les médias ne sont pas particulièrement ouverts à des propos un peu subversifs que certains intellectuels seraient susceptibles de tenir. Merci.
Alors Thierno Monnenembo, comment est-ce que vous expliquez justement ce déclin, pour reprendre le mot qu'utilisait André Bourgeois à l'instant? Aujourd'hui, on peut dire que le roman militant La Mongo Betty, par exemple, c'est un roman qui est complètement mort?
Ah non, pas du tout. Je pense que Mongo Betty est toujours là, il est encore lu. Et la notion...
Mais ce type de roman dans la littérature contemporaine,
il est, c'est en latence. Je pense que ça peut ressurgir en fonction justement de l'évolution de la notion même d'intellectuel à travers le monde. L'Afrique n'est pas indépendante du reste du monde à tout point de vue. Mais c'est vrai que les problèmes ici en Afrique sont un peu plus compliqués. Il y a un double malaise en Afrique. Le premier malaise, c'est que nous nous exprimons dans une langue qui s'adresse à une minorité. Par définition, l'intellectuel est une minorité, il a raison de le dire. Mais cette langue minoritaire est une langue venue d'ailleurs. Ce n'est pas une langue africaine d'origine. Premier malaise. Deuxième malaise, c'est que la plupart des intellectuels africains vivent à l'extérieur du continent africain. La littérature africaine est extra-utérine. Elle est née à Paris. La littérature africaine est un phénomène parisien, ce n'est pas un phénomène africain au sens large.
Ça veut dire que les écrivains sont mal placés,
on est,
presque
on,
au sens
on n'est pas vraiment mal placés. C'est comment appeler ça? Il y a un décalage entre nous et nos propres réalités. Décalage culturel et décalage géographique. C'est ce qui est et sociologique, c'est ce qui est très difficile à gérer. C'est vrai que malgré tout, la négritude a joué un rôle phénoménal dans la prise de conscience des Noirs, de manière générale, dans le monde, et en Afrique, et dans les Antilles, même si le phénomène est particulièrement parisien. C'est un phénomène qui est né à Paris, la négritude.
Oui,
c'est pas né en Afrique, ni aux Antilles. Et en même temps, d'ailleurs, ce phénomène a été accompagné par les grands mouvements culturels français. Il n'y aurait pas eu la négritude sans le soutien des existentialistes, des surréalistes et des grands peintres du cubisme ou du fauvisme. C'était un mouvement général. Tous ces gens avaient le même ennemi, plus ou moins, la bourgeoisie française, colonialiste ici en Afrique, rétrograde là-bas en Europe. Ils avaient des objectifs plus ou moins communs. Mais c'est ça le grand malaise de l'intellectuel africain. Mais ce malaise n'est pas propre aussi à l'Afrique, puisque la notion même d'intellectuel et la notion d'engagement sont des notions qui ont beaucoup évolué depuis ne serait-ce que les années 70. L'engagement tel qu'on le concevait dans les années 20, 30 ou même 40 n'est plus le même. Les grandes causes de l'humanité ont toutes échoué pratiquement. Le communisme est mort, les indépendances africaines ont dérivé. Quelle est la belle cause aujourd'hui, la seule défendable réellement, c'est la cause des femmes. C'est la seule que je vois en ce
moment. Oh, la démocratie, encore quand même, dans un certain nombre de pays du continent.
Sauf que la démocratie elle-même,
elle
est tellement bancale dans des pays comme les nôtres que les gens n'y croient plus réellement. Il y a un problème.
Il y a une forme de démission intellectuelle,
c'est là,
finalement.
C'est pas une question de démission, c'est une question de... Comment appeler ça? C'est que le mot engagement s'est délité de lui-même, par l'expérience historique.
Samy Tchak, on va rajouter une petite notion à la notion d'engagement et d'intellectuel, c'est la notion de devoir. Est-ce que pour vous, un écrivain a le devoir, justement, de s'engager au nom de la défense d'un certain nombre de causes, quand l'essentiel est en jeu, quand les droits humains sont en jeu, quand la menace d'un génocide, par exemple, pointe à l'horizon? Est-ce qu'il y a un devoir d'engagement?
Déjà, je pense que l'écrivain, quand on oublie que c'est un être humain, on aurait tendance à penser qu'il a quelque chose d'exceptionnel.
Oui, c'est pas un surhomme.
Oui, en tant qu'être humain, il peut s'engager, mais s'engager comment? Et s'il y a une menace de génocide, il peut s'engager à favoriser la réalisation du génocide. Faut quand même pas oublier.
Il n'est pas obligé de choisir le bon camp.
Il faut pas oublier le rôle des philosophes et tout à Butare au Rwanda. Ils se sont engagés du côté du génocide et ont contribué à les théoriser. La première des choses quand même qu'il faut évacuer de toutes les conceptions, je peux dire un peu convenues, c'est que l'écrivain est toujours du côté de ce qu'on appelle le bien. Ça signifierait quoi, le bien? Victor Hugo demandait quand même aux pays occidentaux de venir prendre la France qui n'appartient à personne. Est-ce que c'est un engagement pour qui? Il parlait quand même lors d'une réunion des anti-esclavagistes que sont les chercheurs. Il demandait, prenez cette Afrique, elle n'appartient à personne. Bon, ce qu'il demandait, c'est civiliser ces gens-là, c'est Victor Hugo. Le vrai problème quand même, toutes les questions qu'on pose échappent souvent à une certaine dialectique. on cite la négritude, mais les écrivains engagés ne font pas la société. Les contextes historiques font les écrivains engagés. Ils étaient engagés parce que le contexte historique le permettait, comme l'apartheid a permis aussi l'émergence de grands écrivains engagés. Ben, aujourd'hui, comme le dit Thierno, je pense que bon, il n'y a plus de grandes causes fédératrices qui permettent l'émergence des voix que des minorités agissantes entendent. Du coup, l'écrivain, dans toutes les sociétés du monde, n'a plus une place prépondérante. On ne l'écoute pas.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs.
Vous m'en direz des nouvelles, est au Mali, à Bamako.
Petit pays, Gaël Faye dans VMDN sur RFI. Gaël Faye, écrivain et musicien, dont le témoignage nous emmène dans la région des Grands Lacs, au Burundi et au Rwanda. Le Rwanda, on en disait un mot il y a un instant, pays marqué par les 800 000 morts du génocide de 1994. Et vous, Samy Tchak, dans un roman que vous avez terminé, mais sauf erreur de ma part, pas encore publié, vous avez imaginé un rapprochement et même une amitié entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, que vous voulez continuer à appeler Zaïre. D'ailleurs, pourquoi Zaïre de...
Zaïre, parce que je suis resté attaché à cette période de Mobutu, qui a été à l'origine de la catastrophe de ce pays. Ben, je suis parti de l'idée quand même que si on considère les êtres humains et les sociétés comme faisant partie de la nature dans sa globalité, de ce mystère qu'est la nature, ben, il n'y a quand même aucune beauté au monde qui soit née sans la violence. Hein. Les volcans, c'est des choses tellement violentes, ça nous a donné des îles que nous considérons comme paradisiaques. Toutes les sociétés ont été quand même sculptées dans la violence. Je me dis, dans ce qu'on appelle l'Afrique des Grands Lacs, il y a une permanence de violence qu'il est impossible que cela n'engendre pas quelque chose de beau un jour.
Et donc là, vous imaginez un pays qu'on pourrait appeler le Zaïre Rwanda, donc un néologisme globaliste.
J'ai même changé de nom dans la version finale pour l'appeler le Zaburwanda, parce qu'il y aura le Zaïre, le Burundi et le Rwanda, ces ex-colonies belges qui sont quand même sur le continent les fournisseurs des peut-être plus grandes catastrophes. Le Burundi a connu quand même un presque génocide, le Rwanda un génocide, le Zaïre on ne sait même pas comment qualifier la catastrophe. Je me dis un jour peut-être former une sorte d'empire, le livre je l'ai intitulé La nuit avant l'empire. Ce qui se passe actuellement, c'est la nuit, elle accouchera d'un empire comme toutes les sociétés en tout cas.
Mais donc là on est dans l'imagination, on est dans l'utopie peut-être.
On est vraiment dans l'imagination jouissive d'un écrivain qui sait que peut-être jamais la réalité ne va rejoindre ce qu'il dit, mais l'écrivain c'est aussi celui qui fabrique des mondes parallèles. Il est le premier à savoir que son monde ou ses mondes qu'il fabrique n'influent en aucun cas sur la réalité telle qu'elle évolue. Moi, j'aurais souhaité, mais je sais quand même que ça reste quand même l'imagination jouissive d'un écrivain. Je m'en réjouis pour moi-même. Je sais que ça n'aura jamais lieu.
Thierno Bonenambo, vous avez publié en l'an 2000 un livre intitulé « L'aîné des orphelins » aux éditions du Seuil, qui fait suite à un séjour, à une résidence d'écrivain que vous avez passé au Rwanda en 1998. On est donc 4 ans après le génocide, en compagnie de 9 autres écrivains. L'idée, c'était quoi ? C'était de témoigner, d'écrire contre l'oubli. C'est aussi ça, la tâche d'un écrivain ?
Oui, si vous voulez, c'était notre intention. L'intention, ce n'est jamais su, bien évidemment. Mais c'était tellement violent qu'il fallait témoigner, mais indirectement. Il fallait témoigner par le roman, par la pièce de théâtre, par la poésie. Il ne s'agissait pas d'aller là-bas prendre position pour savoir si c'était les Tutsis ou les Hutus qui avaient raison. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais cru à cela. Je n'ai jamais cru qu'il y ait un conflit Hutu-Tutsi. Pas puisqu'il y a un conflit Dogon-Peul au Mali. Je ne crois pas à ça du tout. Donc, nous avons été sur le terrain. Nous avons vu ce pays, un pays extraordinaire, d'une beauté folle, avec des gens extraordinaires, malgré le génocide ou à cause du génocide. Peut-être qu'il a raison, car après tout, en histoire aussi, après la pluie, le beau temps, ça peut exister. La France et l'Allemagne sont là pour nous a donné un très bel exemple. Et de toute façon, les liens historiques et culturels sont tellement forts dans cette région des Grands Lacs que je ne vois pas autre chose qu'effectivement une fédération, un beau jour, peut-être pourquoi pas d'ailleurs, une nation unie de tous ces peuples-là, dans une autre optique, celle de la paix, celle de la convivialité.
Mais le témoignage, Thierno Bonenambo, c'est une forme d'engagement pour un écrivain ?
Je pense que oui, en tout cas c'est un début d'engagement. Mais l'engagement, encore une fois, a énormément évolué. La notion d'engagement a évolué. Et l'engagement a fini par perdre son sens. Aujourd'hui, quand un écrivain dit qu'il est engagé, c'est presque ridicule. Ça fait rire. Alors que dans les années 50-60, un écrivain qui ne se disait pas engagé était voué aux gémonies. Vous voyez ? La notion d'engagement a beaucoup diminué. On ne sait plus ce que ça veut dire. La seule cause aujourd'hui réellement valable, c'est celle peut-être de la cause féminine ou celle des droits de l'homme. C'est un peu ça, c'est un peu vaseux aujourd'hui. Les droits de l'homme, ça veut dire quoi? C'est pas très clair. Avant, oui, il fallait être anticolonialiste. Il fallait être anticapitaliste. C'était très clair. C'était presque manichéen. On était ou de gauche ou de droite. Aujourd'hui, la gauche et la droite, c'est devenu des notions très très floues.
Oui, pour en revenir au témoignage, Sami Tchak, un écrivain, c'est aussi un témoin de son temps, c'est un passeur de mémoire aussi à travers l'écrit. Donc c'est un support sur lequel les générations futures pourront aussi s'appuyer. Vous avez conscience de ça lorsque vous écrivez même un roman ?
Oui, encore faut-il que l'écrivain ait une œuvre qui est la consistance selon les exigences de la littérature. Parce que souvent, je peux même dire que le prétexte de l'engagement est aussi un prétexte qui permet la prolifération de médiocrité. C'est-à-dire il suffit qu'on arrive quelque part, qu'on bombe le torse en disant « je suis contre l'impérialisme ou la dictature dans mon pays », on se dit écrivain. Moi, je pense quand même que le premier engagement d'un écrivain, c'est d'être déjà à la hauteur de ses prétentions d'écrivain. Et s'il parvient à être à la hauteur de ses prétentions d'écrivain, il laisse une œuvre qui peut être écoutée ou ne pas écoutée. Parce que combien de grandes œuvres sont aujourd'hui oubliées, qui n'ont laissé aucune trace dans la mémoire de qui que ce soit ?
Mais personne ne peut le dire aujourd'hui, du vivant de chacun des écrivains.
Oui, c'est même ça.
C'est l'histoire qu'il dira.
L'écrivain doit quelque part avoir cette conscience qu'il lutte contre une chose qui est beaucoup plus importante à mon avis que les droits de l'homme, le féminisme et tout. Un écrivain, s'il a vraiment de l'ambition, il sait quand même qu'il écrit avec le témoignage de plusieurs siècles derrière lui. Il a beaucoup lu, il sait qu'il ne peut pas se situer dans l'écriture sans prendre en compte ce qu'il a lu, les repères. Et à partir de là, il a des ambitions et il sait, lui, dans le silence peut-être de son cœur, que peut-être, année après année, il est en deçà de ses propres prétentions. Après, ce qu'on en fait de son œuvre, ça, c'est pas le plus important. Mais quelle œuvre il est capable de produire, ça me semble le plus important.
Vous m'en direz des nouvelles et Thomas Lee à Bamako.
Tano Monenambo, vous vous êtes lancé dans une entreprise ambitieuse à raconter l'histoire de la Guinée, l'histoire de votre pays, un pays qui a beaucoup subi la violence coloniale. Ce travail-là, c'est un travail de romancier ou c'est aussi un peu un travail d'historien ?
De romancier d'abord et avant tout. Je pense que parfois, c'est vrai que j'ai flirté un peu avec l'histoire dans deux ou trois livres, mais quand même ma préoccupation principale, c'était celle du romancier. Il faut digérer l'histoire, il faut digérer la documentation, il faut digérer les témoignages pour en faire un roman. Comme disait Chika Outamsi, il faut vivre et rendre compte. Compte, c'est O-N-T-E. C'est-à-dire faire en sorte que tout devienne un conte au sens vrai du terme. Et l'histoire sera là, bien évidemment, mais en fond, si vous voulez. C'est un décor, l'histoire. Ce n'est pas vraiment le sujet principal. Et dans Peul, et dans Le Roi de Kael, ou dans Le Terroriste Noir, ce n'est pas l'histoire réellement qui est mise en scène. C'est le roman qui est là, d'abord et avant tout. Ceux qui sont là sont des personnages de roman, d'abord et avant tout. Et c'est le même travail que je suis en train de faire en ce qui concerne justement cette période très douloureuse que la Guinée a vécue depuis 1958.
André Bourgeois, on évoquait l'oralité hein, tout à l'heure. Vous travaillez beaucoup évidemment en tant que spécialiste du Sahel et singulièrement du Mali sur la tradition orale. Mais un mot peut-être de la tradition de l'écrit. Est-ce que la production des romanciers peut être aussi un matériau de recherche intéressant pour un anthropologue comme vous ? On parlait de témoignages tout à l'heure. Est-ce que vous utilisez ce genre de source ?
Oui, ben c'est pas mon objet d'étude privilégié, mais il y a des études qui ont été menées par des anthropologues qui portent cet objet. Mais ce que je voudrais dire sur le roman n'est jamais dénué de fondements idéologiques. C'est pas simplement que du roman inventé. Ça renvoie toujours à quelque chose, à une sorte d'utopie. Mais l'utopie, elle est porteuse de réalisation. L'histoire est faite justement d'utopies qui se sont réalisées. Je fais référence aux différentes révolutions qui ont eu lieu dans le monde, que ce soit la révolution française, la révolution russe, etc. L'utopie est porteuse de transformations sociales. Donc, que l'écrivain ne soit pas conscient de ça, c'est autre chose. Mais son contenu, il y a toujours un contenu idéologique dans le roman.
Donc, votre travail, ça peut être justement de regarder un petit peu entre les lignes et d'essayer
oui,
de voir la toile de fond plus pour faire l'histoire romanesque elle-même.
Oui, tout à fait. Mais pour faire le lien à la situation actuelle et pour rebondir un peu sur cette notion d'intellectuel, un des drames actuels pour les intellectuels, c'est un déclin très sensible de l'idéologie. Et c'est aussi, ça participe du déclin de l'intellectualisme, pour ne pas parler simplement que d'intellectuel. Et ce vide idéologique, il est comblé par qui ? Il est comblé par les croyances, il est comblé par des extrémismes religieux qui font ça. Et ça, c'est quand même une situation extrêmement dramatique. S'il n'y a pas une réaction de type idéologique, c'est une des raisons pour lesquelles je dis, on ne peut pas retourner aux politiques dans le sens noble du terme sans passer par des repères d'ordre idéologique. Quelle que soit l'idéologie, mais ça fixe des balises, ça fixe des contenus, et je pense que le romancier n'échappe pas à ces situations. Vous faisiez référence tout à l'heure au Zaïre, Burundi, et puis Rwanda. Bon, inévitablement, quand vous parlez de ça, je pense histoire. Donc c'est un contenu historique que vous véhiculez. Et dans cette utopie, parce qu'il y a une forme d'utopie, l'histoire est toujours présente, et c'est ça qui est intéressant. C'est une manière de retourner aux politiques.
Samy Tchak.
Oui, je sais que l'histoire est présente, mais ce que j'ai dit, je sais que bon, ben, c'est absolument inutile. Ce livre, quand il sortira, quelques Zaïrois ou Burundais ou Rwandais le liront, et peut-être, comme ça se fait de plus en plus sur Facebook, vont me dire, bon, ben, tu es génial, Samy Tchak et tout. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire, je n'ai pas l'illusion qu'un livre que j'ai écrit puisse agir sur quelque conscience que ce soit. Ça, c'est clair. Et là, je suis au moins conscient de ça, que ça ne servira à rien.
Dernière question pour terminer l'émission, messieurs. Depuis le début de l'émission, on parle de problèmes politiques, on parle de conflits, on parle de guerre, on parle même de génocide. Alors, c'est de ma faute. Hein, c'est moi qui ai choisi cette thématique-là, en liaison, évidemment, avec la rentrée littéraire du Mali. Mais tout de même, Tierno Monenambo, est-ce que les littératures africaines n'ont pas tendance à privilégier les sujets graves ? Est-ce qu'elle n'a pas aussi, de temps en temps, besoin d'apporter un peu de légèreté au lecteur?
Oui, mais ce serait un luxe, pratiquement, de se consacrer entièrement à la légèreté. Nous sommes tellement submergés de questions urgentes et douloureuses que c'est très difficile pour un Africain de s'échapper du contexte dramatique du continent. Vous savez que entre la littérature et l'histoire africaine, il y a une corrélation extrêmement étroite. Pratiquement, un peu comme la route, la littérature africaine emprunte la topographie de l'histoire africaine. À chaque grand événement historique africain correspond à un mouvement littéraire africain. C'est aussi simple que ça, et ça continue. Maintenant, on est dans la migration, mais aujourd'hui, la littérature africaine se passe à Paris. Pourquoi ? Parce que la migration est en train de prendre le pas sur les problèmes coloniaux, sur les problèmes de la dictature. Il y a beaucoup plus d'Africains qui écrivent aujourd'hui à Paris ou à Londres qu'en Afrique. Ce qui fait qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui des communautés africaines de Paris et de Londres que de l'Afrique elle-même. Mais c'est pas grave, c'est un prolongement en quelque sorte. Mais l'Africain, on ne peut pas échapper à l'histoire. La littérature elle-même ne peut pas échapper à l'histoire.
Et donc, la légèreté est un luxe, Savitchak, pour reprendre...
Je prends un exemple que Tierno et moi avons en commun. Je l'ai hérité même de lui, les littératures latino-américaines. Elles s'inscrivent aussi dans des violences, dans la mesure où les sociétés latino-américaines ont connu des violences que le continent africain n'a pas connues sur un plan politique, hein, parce que les dictatures latino-américaines, c'est pas de la rigolade. Et ça a fait naître de grands livres, mais quand on les cite, tous s'inscrivent dans la violence. Voilà. Donc, on est dans un contexte qui fait que peut-être les sujets qui viennent à l'esprit en premier, ils sont aussi des sujets de violence. La question maintenant, c'est qu'est-ce que l'auteur arrive à faire de là pour passer peut-être d'une certaine littérature que j'appellerais la littérature de témoignage, en général pas si importante que ça, à des invariants de la condition humaine, l'universalité.
André Bourgeot pour le mot de la fin.
La légèreté est à l'ordre du jour. On la retrouve partout. Pour être un petit peu abrupte et puis provocateur, je dirais que c'est une marchandise facilement consommable.
Merci beaucoup à tous les trois, Tierno Monedembo, Samy Tchak et André Bourgeot. Un grand merci à l'équipe de la rentrée littéraire du Mali et à son directeur Ibrahim Ahaya. Merci à l'Institut français du Mali et à son directeur Patrick Giraudot, à tous ceux et toutes celles qui sont venus assister à l'émission. Quelques applaudissements d'ailleurs, je pense, s'imposent. Merci infiniment. Tous ceux qui l'ont écouté, évidemment, à la radio, en podcast également ou en direct. Merci aux Bamakois pour leur accueil si sympathique. Sans oublier, merci à l'équipe de VMDN, Baptiste Antoine et Mickaël Calves qui m'ont accompagné ici pendant ces quelques jours. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve lundi et vous m'en direz des nouvelles. Merci beaucoup.
Merci.